Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
L'intervention d'Emmanuel Macron hier soir, il a annoncé plusieurs mesures pour le pouvoir d'achat, voulant se montrer proche des Français, et une réaction attendue, la vôtre. Philippe Martinez, bonjour, merci d'être là. Vous êtes secrétaire général de la CGT. Comment avez-vous reçu cette allocution?
Mal. J'avais eu déjà des doutes le matin, puisque vous savez que nous avons assisté à une réunion avec un panel de ministres et on sentait bien que le président de la République et le Premier ministre n'étaient pas en phase avec la colère qui existe dans le pays depuis plusieurs semaines. Donc ce qu'a annoncé le président de la République, ce sont des mesurettes, mais rien de vraiment à la hauteur de la colère qui s'exprime dans le pays depuis plusieurs mois, de plusieurs semaines.
Comment s'est déroulée la réunion d'hier matin? Avez-vous dialogué avec le chef de l'État? S'agissait-il pour lui de vous écouter, Philippe Martinez?
C'est ce qu'il dit. Nous entendre, je ne l'ai pas compris comme ça. En tout cas, hier soir, je ne l'ai pas entendu comme ça. Je crois que le président de la République est dans sa logique. Une logique que nous dénonçons depuis qu'il est élu. Ses surnoms de président des riches ne sont pas surfaits. C'est y compris ce qu'il a confirmé hier, puisque dans les mesures annoncées, rien contre ceux qui sont très fortunés dans ce pays, à l'image de l'impôt sur la fortune, par exemple.
Qu'est-ce que vous lui avez demandé hier matin, Philippe Martinez?
Des choses simples. Mais des choses simples, il a du mal à les comprendre. L'augmentation du SMIC. L'augmentation du SMIC à 1800 euros brut, parce que nous sommes attachés au salaire brut, puisque le salaire brut, c'est le salaire qu'on perçoit à la fin du mois, et le salaire socialisé, c'est-à-dire des cotisations sociales qui permettent de financer la sécurité sociale, la santé, la retraite. Nous lui avons demandé une augmentation de tous les salaires, et notamment, je pense, aux fonctionnaires, qui sont beaucoup décriés, mais qui sont... loué à chaque fois qu'il y a des problématiques graves dans ce pays. Donc, augmentation des salaires dans la fonction publique, augmentation des salaires dans le privé. Nous lui avons demandé de la justice fiscale. Dans notre pays, les très très grandes entreprises, c'est bien connu, ne payent pas d'impôts, contrairement d'ailleurs aux petites entreprises et aux artisans. Le ministre de l'économie a fait un peu de cinéma sur les fameux GAFA, qui sont les entreprises les plus riches du monde, et qui ne paye aucun impôt. Il a tapé du poing sur la table, et puis finalement, une nouvelle fois, face à la technocratie européenne, on dit, bon, on va regarder comment ça se passe. Et puis, nous avons demandé aussi, évidemment, des mesures pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, car c'est un problème dans ce pays qui n'est pas réglé. Et puis, dernière chose, revalorisation des services publics. Un des problèmes de la transition écologique... Un des problèmes, qu'on éloigne, notamment dans les zones rurales, les services publics des citoyens. Qu'est-ce qu'on fait quand la poste ferme dans son village? Eh bien, on prend sa voiture pour aller à la poste, à la ville. Il y a besoin d'une vraie réflexion sur la mobilité et sur les services publics. Et puis, évidemment, quand on parle de mobilité, je ne me suis pas privé de lui reparler de la SNCF, parce que je ne connais pas de moyen plus écologique de se déplacer que le train.
Justement, puisque vous parlez de la SNCF, est-ce que la CGT, comme les autres syndicats, Philippe Martinez, n'a pas été justement à la remorque des revendications des Gilets jaunes? On a l'impression quand même que Emmanuel Macron a plus bougé pour les Gilets jaunes que pour vos revendications à l'époque où il s'agissait par exemple du statut de la SNCF?
Je ne crois pas. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce mouvement des Gilets jaunes, et c'est ce que nous avons dit dès le début, c'est que même si nous sommes défiants par rapport à certains, parce que, je le répète, il est inadmissible. Des propos tenus sur certains barrages sont inadmissibles.
Par exemple?
Des propos homophobes, racistes, même si c'est marginal. Même si c'est marginal, c'est inadmissible. Des actes comme livrer des migrants à la police, vous comprenez bien que la CGT ne se mélange pas à ce genre d'individus. Par contre, dans leur très grande majorité, on retrouve sur les barrages, quoi, des revendications portées par la CGT. Donc, on ne sommes pas en décalage par rapport à ce mouvement social, qui est une expression de la colère, différente de mobilisations plus traditionnelles. mais compréhensible. Pourquoi il y a moins de gens dans les grèves? Parce que comme il y a un problème de pouvoir d'achat, eh ben on occupe les ronds-points et on manifeste le samedi. Par rapport à la SNCF, il y a eu des choses d'obtenues. Mais je crois que ce mouvement, même s'il était compris par la moitié de la population, il est tombé dans ce que fait Monsieur Macron depuis qu'il est élu, dans le jeu de la division. C'est-à-dire il y aurait les privilégiés d'un côté et puis les pauvres de l'autre.
Vous avez appelé à manifester vendredi prochain. Il ne vous a pas échappé que c'était le samedi que les Gilets jaunes manifestaient. Mmh. Pourquoi ?
Parce que je crois que ce qui peut déclencher encore plus une réaction du gouvernement et du patronat, parce que je vous assure que le patronat, pour l'instant, il est très tranquille. Trop tranquille, trop tranquille. Il ne va rien payer sur les mesures annoncées hier. Eh bien, la meilleure façon, c'est de faire grève, d'agir en semaine. Et donc, on peut conjuguer des actions en semaine et des mobilisations le samedi pour ceux dont je parlais tout à l'heure, qui ont, évidemment, on est bien au courant, des difficultés pour finir les fins de mois. C'est, je crois, l'enjeu majeur du conflit en cours. Donc, il y a besoin de faire grève dans la semaine. Et c'est pour ça que nous avons appelé vendredi prochain. D'ailleurs, c'est à noter, il y aura une journée d'action pratiquement sur les mêmes revendications en Belgique.
L'ambition de la CGT comme des autres syndicats, est-ce que c'est, je vais utiliser un verbe neutre, Philippe Martinez, d'encadrer les revendications des Gilets jaunes? Est-ce que vous pensez qu'il est possible de rentrer dans le cadre d'une négociation classique avec des syndicats, patronales, gouvernement? C'est ça que vous voulez?
Nous, on veut encadrer personne, ni les Gilets jaunes, ni les Gilets d'autres couleurs, ni les sans-Gilets, j'allais vous dire. Nous, on est là pour aider, pour recueillir les revendications et organiser. Et il y a besoin d'un peu d'organisation, parce qu'il y a besoin d'avoir des interlocuteurs. Qu'est-ce qu'on demande? Il faut formaliser les revendications. D'ailleurs, je vois que les Gilets jaunes commencent à écrire ce que nous, on appelle des cahiers de revendications. Peut-être qu'eux appellent ça des cahiers de rond-points, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a besoin d'organiser. Et il y a besoin de coordination entre tous ces mouvements. Les réseaux sociaux sont intéressants, mais il y a aussi besoin de contacts, etc. Donc la CGT, elle veut récupérer personne, elle veut peser sur personne. Par contre, on est présent dans les entreprises et on pense que on peut conjuguer différents mouvements.
Vous avez un savoir-faire quand même.
Oui, on a un certain savoir-faire, mais on apprend aussi des Gilets jaunes sur.
Vous apprenez quoi?
Sur le fait de mieux communiquer par les réseaux sociaux, par exemple. Mais eux aussi ont appris de nous, parce que des occupations de ronds-points, des tentes sur les ronds-points, des pique-niques sur les ronds-points, nous, quand on fait ça, que n'entend-on de l'extérieur? Je vois que nos méthodes sont quand même populaires.
Ben oui, mais justement, c'est un peu ça. On a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire lorsque, par exemple, il y avait des revendications pour la SNCF, on disait, voilà, ce sont des privilégiés et il y a là un corporatisme insupportable, alors que pour les Gilets jaunes, l'opinion publique, parfois même des commentateurs, sont beaucoup plus amènes.
Vous savez, j'ai remonté un peu plus loin. En 2016, quand nous sommes battus contre les lois El Khomri, la cote de l'immobilisation était à peu près à la même hauteur que celle des Gilets jaunes. Je crois que depuis en 2017, et puis même pour les cheminots, parce que, je le répète, Monsieur Macron essaye à chaque fois d'opposer les citoyens entre eux. Et je ne vais pas vous citer toutes les oppositions, mais les retraités contre les actifs, les jeunes contre ceux qui ont du boulot, le public contre le privé, etc. etc. Eh bien, on a eu une forte pression sur les cheminots pour dire qu'ils étaient des privilégiés. Les explications ont montré que c'était faux. Certainement que nous aurions dû encore plus expliquer. Mais le combat des cheminots du printemps, il est plus que jamais d'actualité. Je vous en ai donné la preuve tout à l'heure. Oui, on a besoin du train, on a besoin des petites gares, on a besoin de ce qu'on appelle les petites lignes, parce que ça, pour la mobilité, c'est essentiel, et pour la complémentarité et l'aménagement du territoire, c'est essentiel.
Mais regardez, je vais forcer le trait. Au moment de cette controverse autour de la SNCF, on entendait certains dire « oui, mais alors la SNCF doit être compétitive, sinon vous allez tuer la SNCF ». Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'on peut augmenter les bas salaires, et il n'y a plus de discours, par exemple, sur la compétitivité. Vous n'avez pas l'impression, vous n'avez pas un peu de rancœur, de ressentiment? Vous n'allez pas me le dire comme ça, Philippe Martinez.
Mais pourquoi je ne suis pas rancunier. Je pense qu'on a semé et on commence à récolter. C'est ça qui est intéressant. Il y a des débats qui, au moment où ils se tiennent, sont longs, sont difficiles. Et puis quelques mois après, on voit qu'on se rend compte que ce qu'on avait dit à une époque, eh bien, ça ressurgit. Et c'est ce que je pense un certain nombre de citoyens se rendent compte. Sur les questions de compétitivité. Comment on peut considérer, qu'est-ce qu'on met derrière compétitivité et qu'est-ce qu'on peut considérer comme compétitif dans les services publics? Est-ce que le service rendu au public doit être compétitif? Il doit être efficace et il doit rendre service aux gens. On ne doit pas spéculer sur les services publics. Or, c'est bien tout le débat, encore, qu'a refusé le président de la République, puisqu'il dit il faut plus de services publics, mais qui les casse en ce moment? C'est bien lui. Qui veut supprimer de 120 000 fonctionnaires? C'est bien lui. Donc c'est cette ambiguïté qu'il faut rompre. Oui, on a besoin de services publics.
Vous avez compris, Philippe Martinez, que ça voulait dire 100 euros de plus pour le SMIC par mois, sans augmentation du SMIC horaire, sous forme de prime emploi. Qu'est-ce que ça veut dire?
J'avoue que c'est un... En termes de communication, ils ont fait très fort. Mais ils sont forts de ce point de vue-là. Donc j'ai été obligé de réfléchir un petit moment. Ça veut dire que le SMIC va pas augmenter, tout simplement. Ça veut dire que le président de la République va augmenter la prime d'activité, c'est autre chose, et il a anticipé des augmentations qui étaient prévues pour les années 2020-2021. En fait, ce qui était étalé sur 3 ans, il le donne tout d'un coup. Alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas grand-chose, 100 euros de plus, c'est bien. Mais ne pas augmenter le SMIC, parce qu'il n'y a pas d'augmentation du SMIC, ça veut dire que une grande partie des salariés qui sont au SMIC ne seront pas augmentés. Et puis tous les autres. Parce que quand on augmente le plancher, eh bien tout le monde dit il faut augmenter aussi tout au long des étages. Eh bien ça n'oblige pas le patronat à augmenter tous les niveaux de qualification intermédiaire, enfin au-dessus du SMIC. Et puis c'est quand même un nouveau cadeau pour le patronat. C'est-à-dire qui va financer ça? On va à nouveau demander à ceux qui n'ont pas grand-chose de donner à ceux qui n'ont rien du tout. Patronat est épargné, le MEDEF peut sourire.
Que cherche le gouvernement d'après vous, Philippe Martinez?
Et je pense que le gouvernement a bien compris qu'il y avait un problème dans ce pays, mais il aurait fallu être sourd, aveugle, pour ne pas s'en rendre compte. Mais il continue la même politique.
Pourquoi?
Parce qu'il est dans une logique de ce que je vous disais tout à l'heure, une logique de président des riches, de donner toujours plus aux très grandes entreprises.
Il voit bien, Philippe Martinez, comme vous l'avez dit, qu'il y avait malgré tout une protestation, une colère. Alors est-ce que d'après vous, il joue par exemple la trêve des confiseurs? Est-ce que d'après vous, en supprimant, parce que on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la baisse de la CSG pour les retraites inférieures à 2000 euros, est-ce qu'il cherche à fissurer les ronds-points, et comme jadis on fissurait les fronts syndicaux? Qu'en pensez-vous?
Non, je suis persuadé, et nous le disons depuis que M. Macron est élu, même avant, parce que... Tout le monde oublie qu'il a été ministre. C'est le petit jeune qui est arrivé en 2017 et puis avant il n'existait pas. S'il existait, et il a déjà sévi. Je crois que M. Macron et quelques personnes de son entourage ne vivent pas dans le même monde que la quasi-totalité des Français. Et son air compatissant hier, ça durait 30 secondes, hein, la famille qui vit avec 1100 euros, la mère célibataire... On a dû lui écrire, il a répété ce qu'on lui avait écrit. Il ne comprend pas les problèmes des Français. Et donc ces petites phrases dont il s'est repenti, ou presque, c'est pas des erreurs de langage. J'allais dire, c'est naturel quand ça sort de lui, parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas les problèmes de fin de mois. Il ne comprend pas les problèmes du chômage. Quand on dit à quelqu'un, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, faut vraiment pas habiter sur cette planète-là, non? Donc voilà, c'est ça son problème. Il vit avec les puissants, il a une logique de puissant, et il ne peut pas comprendre la majorité de ce que vivent la très grande majorité des citoyens de ce pays.
Comme vous, je suis allé sur les ronds-points, Philippe Martinez. Alors les revendications sont... très hétérogènes, même si elles sont bien entendu resserrées autour de la question du pouvoir d'achat, il y a aussi tout simplement une demande de démission vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Est-ce que la CGT réclame sa démission?
Ça, c'est une affaire de citoyen, la question de la démission, une nouvelle constitution, etc. Nous disons, il suffit, si on change les hommes pour subir la même politique, quel est le résultat? Or, Monsieur Macron qui s'est plaint d'un héritage de 40 ans, il fait la même chose que ceux qui l'ont précédé. Donc vous voyez bien qu'il suffit pas de changer le bonhomme, si je puis dire, pour que les choses changent. Non, il faut changer de politique, considérer par exemple que le travail n'est pas un coût. Considérer que dans ce pays, il y a de l'argent et il faut aller le chercher là où il est.
Mais la semaine dernière, par exemple, Gérard Larcher, président du Sénat, disait que la République était menacée. Si véritablement on en est là, est-ce que la CGT ne devrait pas faire un appel au calme? Est-ce que finalement la dimension politique n'est pas indissociable de la dimension économique aujourd'hui, Philippe Martinez?
Enfin, je crois que les politiques devraient un peu balayer devant leur porte. Combien de promesses non tenues? Les citoyens ne sont pas des imbéciles, contrairement à ce que pensent ceux qui nous dirigent. Qui a dit « je suis l'ennemi de la finance »
C'était le François Hollande, si c'est un quiz.
C'était un quiz, mais c'était assez facile à répondre. Et qui a fait tout pour la finance? François Hollande. Et donc, on est bien dans une logique de politique qui renie les promesses qu'ils ont tenues durant leur campagne. Comment voulez-vous que les citoyens les croient après? C'est ça le problème de la démocratie. Et donc il faut des citoyens qui contrôlent mieux leurs élus et pourquoi pas plus régulièrement demander l'avis des citoyens sur telle ou telle mesure proposée par les gouvernements.
Vous connaissez bien les mobilisations collectives, Philippe Martinez, puisque vous êtes à la tête de la CGT. Si le gouvernement ne cède pas d'ici vendredi, si le gouvernement ne cède pas du tout, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui pour vous, puisque vous voyagez beaucoup en France, vous connaissez les gens?
Pour nous, il y a besoin, je l'ai dit tout à l'heure, d'augmenter la pression, et notamment dans les entreprises. Le MEDEF est trop tranquille. Il est trop tranquille. Il faut, entre guillemets, le secouer un peu. Hein, je dis ça avec des guillemets parce que je ne veux pas être taxé de quoi que ce soit. Et il y a besoin qu'il y ait plus de liens entre les syndicats et, je crois, la CGT et ces citoyens qui sont sur les ronds-points. Je crois que ce qu'ils nous reprochent le plus, c'est de ne jamais nous voir. De ne jamais nous voir. Et donc, il y a besoin que la CGT, elle se bouge un peu plus et qu'elle soit plus présente dans des lieux où elle n'a pas l'habitude d'être présente.
Et si rien ne se passe, je veux dire, si le gouvernement reste, alors, à vos yeux, sourd
il
à
est
ses
sourd.
Demandes. Bon, alors, s'il continue à l'être, qu'est-ce qui peut se passer?
La mobilisation est d'actualité et c'est pour ça que vendredi, nous proposons des grèves dans les entreprises et nous réfléchissons pour donner des suites dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine.
Quelle suite?
Ça, on verra. Vous savez, on décide avec les salariés, on décide démocratiquement, mais en tout cas, une nouvelle journée de grève, conjointement, par exemple, avec les jeunes, dont le président n'a pas parlé hier, les lycéens, les étudiants. Voilà où nous en sommes.
Nous retrouvons nos invités. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Il nous a dit tout à l'heure, sans suspense excessif, qu'il n'avait pas été convaincu par les annonces du chef de l'État. Et nous sommes en compagnie de Daniel Cohen. Économiste Daniel Cohen, comment vous avez reçu ces annonces du chef de l'État?
Bon, c'est d'abord, je crois, un paquet qui, en termes de masse financière, est malgré tout significatif. On n'a pas fait exactement les calculs, mais ça coûtera autour de 10 milliards. Je pense un peu moins de 10 milliards en réalité, et tout dépendra bien sûr du détail, de la façon dont toutes
ces
mesures...
Donnez-nous un ordre de grandeur par rapport aux grandes masses macroéconomiques.
Donc 10 milliards, ça ferait 0,5 points de PIB. Ça veut dire que là, on avait un déficit qui était près... à être, enfin pour 2019, qui aurait pu être de 2,8-2,9% du PIB, on va passer de l'autre côté des 3% si aucune mesure correctrice n'est prise. Ça fait partie, ceci dit, des grandes questions que tout le monde se pose ce matin, c'est-à-dire quel est le plan de financement. Il n'y a aucune référence qui a été faite à ça, mais il faudra bien que le gouvernement fasse à un moment donné des choix dans la manière dont tout ça sera financé.
Par rapport à l'évasion fiscale, ça fait combien?
D'ici la fin de l'année, ça fera rien du tout. Potentiellement, ce sont évidemment des sommes considérables, mais on voit en creux.
Faut revenir aux réalités parfois.
Bien sûr, ce sont des sommes considérables, mais là on voit pas comment sur 2019 il le fera. Donc on sait qu'il reniera un certain nombre de baisses de charges qui avaient été prévues pour la fin de l'année. Moi, je reste convaincu qu'il y a une grande mesure qu'il pourrait prendre, c'est tout simplement de réduire ou de renoncer à ce bascule du CICE en baisse de cotisation. Tout le monde voit bien que c'est complètement ridicule. La France n'a pas
un sou. Il faut rappeler que c'est...
Donc le CICE, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi qui coûte 20 milliards chaque année. Bon, très bien, dont acte, mais pour assurer.
Très bien, beaucoup considèrent qu'il n'est pas.
Et qu'il ne crée pas d'emploi.
Voilà, bon, beaucoup d'autres.
Non,
Philippe Martinez.
Mais voilà, bon, c'est un sujet en soi, évidemment, mais le sujet qui s'ajoute à ce sujet, c'est qu'on va en doubler la masse au cours de l'année 2019, puisqu'on va passer à un autre dispositif, celui qui va consister à baisser les charges employeurs, mais. Ne voulant pas prendre de risques, on va au cours de l'année 2019 faire les deux dispositifs à la fois. C'est un peu comme si, au moment de passer au prélèvement à la source, avec un signe opposé, on demandait aussi aux Français de payer des impôts sur l'année blanche. Ce serait évidemment totalement ridicule. Or ça, c'est 20 milliards d'économies potentielles qui permettraient de réenchanter un peu l'année 2019. Je ne sais pas s'il va le faire, mais il faudra quand même qu'à un moment donné, on ait des indications sur le plan de financement. Il a écarté le retour à l'ISF. Bon, donc, ça fait quand même... des questions qui restent
entre... Il a bien fait d'écarter le retour de l'ISF.
De son propre point de vue, je pense que ça aurait été une capitulation de revenir sur l'ISF, mais il y avait beaucoup de gens qui attendaient quand même qu'il fasse un geste. On parlait d'une tranche additionnelle pour montrer quand même qu'il avait entendu.
Mais la tranche additionnelle, elle aurait été sur les revenus, pas sur le patrimoine.
Donc ça aurait fait beaucoup de choses, mais on ne l'a pas eu non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun signal envoyé dans cette direction-là vers une demande de justice fiscale. Ça fait partie des points les plus sombres de sa présentation.
Non, mais
Philippe Martinez.
Voilà, pour vous résumer, il ne prend rien aux riches, aux très riches. Il va faire la chasse à ceux qui ne payent pas leurs impôts, mais il ne dit pas comment. Mais il continue à supprimer des fonctionnaires du Trésor à Bercy. Il a dit qu'il était victime des 40 années de politique précédente. Les heures supplémentaires désocialisées et défiscalisées, qui les a inventés? Sarkozy. Donc il continue comme Sarkozy. Le fait de parvenir sur les impôts, enfin plus de justice fiscale, c'est la continuité de ce qu'on a connu précédemment. Donc en fait, c'est le président de la continuité. Il pleure sur les 40 années qui l'ont précédé, mais il dit on change rien, on continue à favoriser ceux qui en ont beaucoup.
Daniel Cohen, sur le plan économique, la protestation des Gilets jaunes, autrement dit la colère des classes moyennes, des ouvriers paupérisés, elle vient de loin. Je veux dire, le récit de ces gens sur les ronds-points qui disent « voilà, je m'en sors pas, j'arrive pas à boucler mes fins de mois », d'où provient-il sur le plan économique ?
Non, sur le plan économique, je pense que c'est assez simple. Depuis, en effet, 40 ans à peu près, 4 décennies au moins, nous sommes passés d'une société industrielle avec ses syndicats puissants, ses ordres, ses classes sociales, où chacune pouvait mesurer son pouvoir par rapport aux autres, à une société qu'on a longtemps appelée post-industrielle, ce qui était une façon de dire qu'on ne savait pas trop ce qu'elle était en réalité, beaucoup plus atomisée, éclatée. Et c'est au fond ce nouveau prolétariat de cette société post-industrielle qui s'est agrégé derrière ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a quelque chose de sociologiquement important, je crois, qui s'est produit. Je ne sais pas si Philippe Martinez sera d'accord avec moi, mais pour dire que au fond, ces travailleurs pauvres, ces travailleurs indépendants, ces ouvriers qui travaillent sur le plan du nominal,
je veux dire, leurs revenus sont parfois au-dessus du salaire médian, et pourtant ils disent on est pauvres.
Oui, parce que ils ont des charges, notamment. Si vous voulez, bon, je voulais juste finir ce point, pardon, mais pour dire que ils ont peut-être acquis une conscience de classe cette fois-ci. Ils sont passés, pour reprendre une expression de Hannah Arendt, d'une société de masse à une société de classe. Elle décrivait le chemin inverse dans les années 30, c'est-à-dire qu'ils ont compris que leur tragédie individuelle, en réalité, avait une dimension collective. C'est ça, d'ailleurs, la question fondamentale à laquelle le gouvernement va être confronté. Ce sont des gens, des personnes, qui ont trouvé du plaisir à être ensemble. Ce sont des gens qui sont souvent peu syndicalisés, justement, parce que leurs conditions d'existence sociale ne se prêtent pas, en tout cas pour l'instant, à un syndicalisme qui les agrège. Et donc, ils se sont retrouvés unis, au fond, par des problèmes très proches, alors qu'ils se croyaient totalement éclatés les uns des autres. Et au fond, la pérennité du mouvement, elle va beaucoup dépendre de cette question. Est-ce qu'il y a eu un affectio societatis qui font qu'ils auront du mal à se quitter, rentrer chez eux, ou est-ce que finalement, les mesures qui ont été annoncées vont suffire à désagréger ce mouvement?
Je crois que que la réponse est plutôt négative.
Pour le gouvernement, c'est là que ça va se jouer en réalité.
Philippe Martinez ?
Oui, oui. Enfin, deux choses. Premièrement, je suis stupéfait, mais c'est une expression qu'on puisse parler de travailleurs pauvres. Enfin, c'était inconcevable il y a quelques années. C'est-à-dire que des citoyens qui travaillent ne peuvent plus vivre de leur travail. C'est un vrai problème. Et donc, c'est toute la théorie sur le fameux coût du travail. Le travail n'est pas un coût, c'est un investissement. La deuxième chose, c'est que, oui, on a parlé de société post-industrielle, mais beaucoup d'emplois de l'industrie ont été externalisés. Des emplois de service étaient dans l'industrie et ils ont été externalisés. Pourquoi ? Parce que en externalisant, on changeait les droits collectifs, notamment les conventions collectives, et ça servait à payer moins. Moi, je connais des services de formation, d'informatique, qui étaient avant dans les grandes entreprises, qu'on a externalisés. Et maintenant, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus d'industrie. Et donc ça a contribué à générer des travailleurs pauvres. Et puis, effectivement, moi, je suis plutôt satisfait que des gilets jaunes redécouvre le syndicalisme, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, sans s'en rendre compte, parce que on a prôné l'individualisme, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se retrouvent sur des ronds-points, ils redécouvrent la convivialité.
Justement,
Frédéric Seitz.
On voit la sociologie des personnes qui se sont mobilisées sur les ronds-points. Il y a des profils assez divers, mais il y a beaucoup de retraités, il y a beaucoup d'indépendants, il y a beaucoup de chômeurs ou de précaires. Tous ces publics-là sont assez peu, en général, représentés par les syndicats. Est-ce que c'est une piste de réflexion pour vous d'aller chercher ces publics-là qui sont plutôt plus loin du syndicalisme que la moyenne ?
Oui, oui, enfin, c'est non seulement une piste, mais ça fait un moment qu'on y réfléchit, il faut qu'on accélère. Enfin, en tout cas, moi, je me bats pour ça. C'est des salariés ou d'anciens salariés qui, pour un certain nombre, très peu ont connu le syndicat. Mmh. Ou alors, ils l'ont connu dans une grosse boîte, et ils ont été licenciés ou externalisés, ils ne le connaissent plus. Et puis la majorité, ils n'ont jamais rencontré de syndicat. On ne peut pas... Moi, je dis toujours, la CGT, pour l'aimer, il faut la connaître. Et elle gagne à être connue. Sauf que quand on la connaît pas, on a peut-être des images véhiculées... Si c'est Monsieur Roux de Bézieux ou Monsieur Macron qui parle de la CGT, forcément, ça fait pas rêver. Donc, on a un vrai effort à faire vis-à-vis des privés d'emploi. Faut qu'on aille dans les quartiers. Faut qu'on aille sur les marchés pour les retraités, etc., etc. C'est un enjeu important. Mais je suis optimiste parce que on redécouvre ensemble que l'action collective, c'est quand même pas mal.
Daniel Cohen, est-ce que ces gens-là, ces gilets jaunes, ils n'ont pas été paupérisés par la mondialisation ? Est-ce que finalement, des gens comme Donald Trump n'ont pas porté le discours qu'il aurait fallu donner avec la politique qui s'ensuit à ces gilets jaunes ?
Oui, enfin la mondialisation à condition de la considérer voilà vraiment au sens large que lui donnait Philippe Martinez. Moi, pour moi, en effet, la question absolument essentielle qui signe le basculement dans les années 80-90, c'est le fait, exactement comme vous l'avez résumé, que une société qui était intégrée, les usines Renault pour prendre cet exemple, fabriquait 80% de la valeur de la voiture qui, dans les années 60, était vendue aux clients. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Elle ne fabrique que 20% de la valeur de la voiture et tout est externalisé. Donc, en effet, quand on dit post-industriel, en fait, c'est un terme très confus parce qu'on voit bien que c'est une société d'un type nouveau qui est en train d'émerger, digital, numérique, algorithmique. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mais le terme convient parce que, en effet, dans une grande mesure, on a démantelé les ordres anciens de la société industrielle, souvent pour faire la même chose. Et vous avez raison, moi je crois que c'est ça la vraie question, c'est qu'on est passé d'une société qui était dure, hiérarchique, mais qui avait quelques mérites, à savoir qu'elle était intégratrice dans les années 60, à une société où, au fond, la forme normale de travail, c'est donneur d'ordre, sous-traitant. C'est ça qui s'est passé, sachant que le donneur d'ordre est toujours le sous-traitant d'un autre, et que la règle, c'est une mise en concurrence générale des sous-traitants entre eux, au lieu que, comme par le passé, quand les usines Renault avaient des profits, tout le monde en profitait, y compris le personnel d'entretien. Maintenant, ça n'est plus le cas. Et c'est cette société atomisée, démantelée, qui est à la recherche d'une conscience collective. Les gilets jaunes, c'est un premier signe qu'on va dans cette direction. Et encore une fois, toute la question est de savoir si ça va retomber d'un coup, parce que ces mesures, au fond, vont faire mouche et que c'est plus ou moins ce que les gens attendaient, ou si, au contraire, la dimension de ce mouvement va lui survivre et, au fond, poser des problèmes au gouvernement.
Plus généralement, Daniel Cohen, on voit bien que dans la mondialisation, il y a des gagnants, il y a des perdants. En imaginant, par exemple, que la France soit perdante par rapport aux États-Unis avec une augmentation, il y a beaucoup, par exemple, d'entreprises aux États-Unis qui ont fait passer le SMIC à $15, c'est-à-dire quasiment...
Avec des mobilisations. avec des mobilisations, je pense aux salariés du commerce. Non, mais c'est toujours bien de le dire. C'est pas Trump ou son prédécesseur qui ont dit tiens un jour un matin en se levant, on va augmenter le SMIC.
Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a, y compris chez McDo, des salaires horaires à 13 euros aux États-Unis.
Amazon les a augmentés.
Il y a des mêmes phénomènes en Allemagne. Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'être à la fois plus rigoureux, plus favorable à des politiques d'austérité que d'autres pays, Daniel Cohen?
Oui, certainement. Le SMIC reprend de la couleur dans un très grand nombre de pays. L'Allemagne, au fond, on se souvient que Madame Merkel y était très hostile au départ quand elle a fait cette alliance avec le SPD. Et au fond, c'est un des mérites qu'elle s'attribue à elle-même, c'est de l'avoir fait. L'Angleterre prend cette voie, les États-Unis aussi. Donc c'est un instrument puissant. Il y a une contrainte tout de même qu'on ne peut pas tout à fait ignorer, c'est que la France est dans la zone euro, qu'elle n'a plus l'arme de la dévaluation. Et donc, on est obligé de réfléchir aussi à la manière de savoir comment on peut corriger les écarts de productivité avec un autre pays, autrement que par une dévaluation. Alors, je ne dis pas que ce soit aujourd'hui la question centrale, mais ça fait partie tout de même du raisonnement qu'on doit garder à l'esprit. Si on veut que la zone euro perdure, et bon, peut-être qu'il faudra un jour en sortir, je ne sais pas, mais en tout
cas... Est-ce que c'est pas ça la question qui est posée, tout simplement, Daniel Cohen?
Je crois que non. Là, en l'occurrence, la question qui est
posée... L'appel, par exemple, des intellectuels d'hier pour une Europe...
Oui, c'est une... Non, mais donc là, l'appel des intellectuels d'hier, c'était justement pour donner à l'Europe les moyens de créer ces conditions d'existence. Donc ce n'est pas, c'est tout à fait dans la ligne de ce que je dis. Mais encore une fois, je crois que le point de départ est très indépendant de tout ce dont on parle. C'est beaucoup plus lié à la révolution financière des années 80 qui a changé les méthodes de management des entreprises en demandant justement ce démantèlement général. Et pour être un peu provocateur, je crois que la mondialisation est un effet de cette transformation du monde dans les années 80. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a tout externalisé, on a pu délocaliser ensuite. Donc dans le process, ce qui est premier, c'est cette volonté, en effet, de cette révolution financière, de désintégrer ce qui faisait les appartenances sociales du monde d'hier.
Philippe Martinez.
Je crois qu'il faut inverser une logique qui règne dans tous les pays occidentaux et au-delà, c'est l'idée du coût du travail. Le jour... Et c'est pour ça qu'il faut se battre et faire pression. Où on inversera ça, en parlant d'urgence sociale et d'urgence écologique, parce que nous sommes attachés à l'écologie, eh bien les choses changeront. Et on peut agir. Par exemple, parce que les externalisations...
Mais comment, pardonnez-moi Philippe Martinez, juste une petite question. Comment pouvez-vous l'inverser tant qu'il y a la mondialisation? Est-ce que c'est pas la mondialisation qu'il faudrait s'attaquer?
Non, parce que tout le monde a le droit de travailler. Mais il faut changer les règles. Qu'est-ce qui prime? Le social. Par exemple, si l'attribution des marchés publics dans notre pays, en Europe, c'est 40%, était conditionnée à des règles sociales minimum de l'OIT. Ouais, c'est pas
l'Organisation internationale
exactement qui dépend directement de l'ONU, c'est-à-dire qui respecte le droit de grève, qui respecte le droit de se syndiquer, etc. Ça changerait la donne. C'est-à-dire avoir des appels d'offres qui contiennent des mesures sociales. Eh bien... Le gouvernement français peut l'appliquer et ça pourrait s'appliquer dans d'autres pays. Quand Renault, que je connais assez bien, délocalise en Turquie, par exemple, c'est bien pour peser sur le travail. Je crois que les libertés sociales en Turquie ne sont pas un exemple sur la planète.
Par exemple, on pourrait taxer les Renault qui viennent de Turquie.
Mais non, on ne devrait pas accepter de ne pas respecter le minimum de règles sociales. Et je vous en ai une référence qui est contraignante, mais enfin qui n'est pas, j'allais dire, la révolution. C'est une règle de l'ONU par le biais de l'Organisation internationale du travail. Eh bien, même les États-Unis ne respectent pas des règles de l'OIT. Voilà quelques mesures. Donc la France pourrait être exemplaire en la matière. Et on aurait des conditionnements et sociaux et environnementaux pour l'attribution, je vous parle juste des marchés publics, on n'obligerait même pas les entreprises privées. Par contre, elles pourraient rembourser le fameux CICE quand elles ne respectent pas, par exemple, un certain nombre de règles sociales, vous voyez.
Daniel Cohen, qu'est-ce qui nous empêche d'augmenter le salaire minimum? Est-ce un problème de compétitivité en France? Est-ce un problème de sous-emploi? Alors évidemment, les deux problèmes sont liés, mais si en Allemagne, aux États-Unis, on augmente les salaires minimums, est-ce parce que tout simplement, il y a des tensions sur le marché de l'emploi, pas assez de travailleurs, ou est-ce lié à des systèmes qui sont plus productifs que notre système industriel et productif?
Enfin, il y a de tout ça, mais juste pour reprendre ce que disait Philippe Martinez, je pense que c'est très très important. Si on veut se projeter dans le 21e siècle, il faut que les normes internationales, je vous rejoins vraiment tout à fait là-dessus, l'Organisation mondiale du commerce notamment, intègrent d'autres sources du droit que celles du commerce elle-même. Et vous avez parlé de l'OIT, d'une agence pour l'écologie qu'il faudrait sans doute créer au niveau mondial, pour que dans les différents commerciaux, on puisse arguer de ces questions. C'est vraiment très important. Ça fait longtemps que beaucoup d'économistes revendiquent ça, que dans la jurisprudence de l'OMC, on puisse intégrer des faits écologiques, des faits sociaux pour pouvoir contester tel et tel aspect du commerce mondial. Donc c'est tout à fait essentiel. Après, bon, pour revenir sur cette question du SMIC, il y a des marges de progression du SMIC en France, c'est absolument certain. Mais moi, je ne jette pas cet instrument de la prime d'activité. Je pense qu'il est très intéressant. Ça veut dire qu'on complète tout ce qu'on voudra faire et tout ce qu'on peut faire au niveau du SMIC par d'autres instruments qui doivent s'y ajouter. Ce qu'on ne sait pas dans le cas de la mesure qui a été annoncée, c'est est-ce que ce sera juste un petit pic au voisinage du SMIC ou est-ce que ce sera l'épaisseur qu'a la prime d'activité aujourd'hui qui commence à ce qui était l'ancien RMI et qui donne des ressources additionnelles aux travailleurs pauvres. Au fond, ce qui est derrière, c'est quand même en filigrane cette question de ce qu'on appelait pendant la campagne le revenu universel. Dans quelle mesure l'État est capable de doter les travailleurs pauvres de ressources additionnelles qui viendraient s'ajouter à ceux qui travaillent. Je pense que là, c'est un énorme débat. Mais en fait, en filigrane derrière...
On n'en est pas là, en tout cas.
Oui, mais derrière cette revalorisation de la prime d'activité, en réalité, ce qui se joue, c'est en partie une question comme celle-là. Qu'est-ce que l'État, la collectivité est capable de mettre dans le paquet? Qu'est-ce que les entreprises, qu'est-ce que les syndicats peuvent obtenir? Les deux doivent avancer de pair, il ne faut surtout pas les opposer. Et c'est peut-être ça la logique du gouvernement aujourd'hui, mais en réalité, derrière cette prime d'activité et ce RSA, se pose cette question de ce revenu additionnel, de ce revenu de base universel, comme on voudra l'appeler.
Philippe Martinez.
Je pense que le salaire doit rester la référence comme... le paiement de la force de travail, c'est essentiel, et donc il faut revaloriser les salaires fortement. Le SMIC.
Vous voulez dire que vous êtes contre la prime d'activité ?
C'est utile pour ceux, mais la finalité, c'est d'avoir du travail et de pouvoir vivre de son travail. Et de ce point de vue-là, parce qu'on l'a pas évoqué, enfin légèrement, ceux qui prônent le fait que en prônant les heures supplémentaires, on va créer de l'emploi. Enfin, faut vraiment être. Je ne vais pas dire de grossièreté, mais c'est complètement stupide de dire qu'on va donner plus de travail à ceux qui en ont déjà pour libérer du travail à ceux qui n'en ont pas. Enfin, c'était du
Daniel
Sarkozy.
Daniel Cohen opine du chef.
Oui, tout à fait d'accord avec ça. Quand Sarkozy avait lancé cette mesure, la plupart des économistes avaient protester exactement dans les termes qui viennent d'être faits ici, c'est-à-dire qu'en réalité on exonère de charges et on donne un supplément de revenus à ceux qui en ont déjà un, soit on revalorise le travail, soit on donne une chance à ceux qui n'en ont pas, mais cette manière en réalité de créer encore en quelque sorte un nouveau mur entre ceux qui n'ont pas d'emploi et ceux qui vont être incités à faire des heures supplémentaires.
C'est une idée neuve d'un jeune président.
Mais alors je vais reposer la question que je vous posais tout à l'heure, Philippe Martinez. Si vous voulez finalement une augmentation des bas salaires, c'est-à-dire une autre...
De tous les salaires.
Bon, mais pas les gros salaires.
C'est quoi un haut? Par exemple, je veux pas que mon PDG Carlos Ghosn soit augmenté. Vous attendiez.
Actuellement, il est en vacances.
Oui, mais enfin, 15 millions d'euros par an, vous voyez.
Vous voulez un autre partage de la valeur ajoutée pour que les...
Un autre partage des richesses. Qui crée les richesses? C'est bien ceux qui travaillent. Donc pourquoi certains accumulent, on invente des nouveaux mots, optimisation fiscale pour plus dire évasion fiscale et fraude? C'est quand même scandaleux. C'est 80 milliards d'euros. C'est scandaleux. Enfin, faut arrêter de culpabiliser ceux qui travaillent.
Emmanuel Macron en a parlé. Il a dit qu'ils allaient être beaucoup plus sourcilleux qu'un PDG français, comme par exemple Carlos Ghosn devrait payer ses impôts en France. Vous l'avez entendu.
Il a dit qu'on verra. Mais il a pas dit comment.
Il a dit que c'était un chantier.
En supprimant des fonctionnaires à Bercy dont le boulot est de faire la chasse à ceux qui font de l'évasion fiscale, je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on va régler le problème. Mais il faut parler du CICE, des actionnaires. La France est championne d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Vous voyez, il y a un peu de piste de réflexion, si je puis dire, pour le président de la République. Mais quand on est le président des riches...
Daniel Cohen, il est le président des riches ou des très riches, comme l'ont dit d'anciens méchants présidents?
En tout cas, il traîne. Enfin, très riche.
Indépendamment de sa réputation, est-ce que sa politique économique.
Ce qui est certain, c'est que l'Institut des politiques publiques de l'École d'économie de Paris a fait un calcul très très précis, au millième près, de quels sont les grands bénéficiaires des mesures qui ont été prises en 2018. C'est même pas le 1% qui en profite, c'est vraiment les 4 millièmes de ceux qui sont dans le haut de la distribution.
C'est-à-dire, pour nous donner un ordre de grandeur.
Bon, le pourcent, ça serait 100 000 euros par an. Les millièmes, ça doit être le double. Ou le triple, je ne l'ai plus exactement en tête. Donc on parle de gens qui sont très très hauts dans l'échelle des revenus et pour le 0,1%, le cadeau fiscal qui a été fait à la fois avec la suppression de l'ISF et avec l'instauration de cette flat tax, de mémoire, elle est de l'ordre de 85 000 euros par an de cadeaux par personne qui est fait en haut de la distribution de revenus. Donc,
ce que tout le monde gagne, quoi.
Cette question, c'est son sparadrap du capitaine Haddock, si on peut dire. C'est-à-dire que ça va le poursuivre tout au long de son quinquennat. Et hier, justement, il n'a pas.
Mais
n'a
vous, pas vous pensez quoi? Vous pensez qu'il y avait eu une forme de naïveté? C'est-à-dire, contrairement aux propos des uns et des autres, il croyait dans l'existence d'une théorie du ruissellement, en l'idée qu'on allait pouvoir être pro-business et qu'on allait faire affluer. Vous pensez que c'est ça? Ou alors, vous pensez, comme Philippe Martinez qui est à côté de vous, que c'était tout simplement un président des riches élu par les riches?
Ça revient au même, hein. C'est-à-dire croire à la théorie du ruissellement quand toutes les études depuis 30 ans montrent qu'elle n'a jamais fonctionné. Hein. Le trickle-down economics, il a été lancé par Reagan au moment où le 1% le plus riche a vu sa part dans le revenu total doubler et que les 50% les plus pauvres ont vu leur part dans le revenu total réduite de moitié. Ce qui veut dire qu'ils ont permuté leur place. Donc, on sait que ça ne fonctionne pas. Et bon, il est dans cette philosophie-là. Le problème, c'est que hier, il avait une occasion de corriger le tir, de montrer qu'il avait entendu qu'il y avait une protestation, que le consentement à l'impôt avait un prix, à savoir le fait que cet impôt soit juste. Et c'est là qu'il a pêché hier, dans l'ensemble des mesures qui touchent un peu tout ce qu'on attendait qu'il touche. Le point qu'il n'a pas adressé, c'est ce point de la justice fiscale. Et je pense que ça va lui revenir encore pendant le reste de son quinquennat, sauf s'y trouver une idée géniale entre-temps.
Un mot de conclusion, Philippe Martinez.
Bah, écoutez, moi, je suis plutôt optimiste face à ces mouvements sociaux. Il faut, je l'ai dit, les amplifier dans les entreprises, et le 14, vendredi prochain, en sera l'occasion. Mais quand il y a de la convivialité, de la solidarité, des revendications communes, c'est plutôt une bonne image de la France.
Merci Philippe Martinez, merci Daniel Cohen. Vous avez publié un livre qui s'intitulait « Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète ». C'est un titre en quelque sorte d'actualité et c'est publié chez Albin Michel.